Avouons qu'à première écoute, le texte d'évangile que nous venons d'entendre peut nous décevoir. Il paraît ne pas avoir la vigueur d'autres récits. En forçant à peine, on pourrait avoir l'impression que Jésus se contente aujourd'hui, ce jour-là, de donner de simples questions, de simples conseils, de savoir vivre en société. Des conseils qu'on aurait pu trouver sans lui, sans le désir d'être ses disciples. Alors qu'est-ce qui va nous permettre de dépasser cette première impression? Qu'est-ce qui va nous aider à nous nourrir spirituellement de cet évangile? Un simple mot, qui passe inaperçu tellement nous avons l'habitude de le rencontrer, lorsqu'il remarqua comment il choisissait les premières places, Jésus dit une parabole aux invités. Jésus dit une parabole. Ce qu'il raconte est une parabole, c'est-à-dire un récit qui invite à aller au-delà de lui-même. Lorsque Jésus raconte une histoire de graines ou de plantes, on sait bien qu'il ne nous fait pas un cours de botanique. Eh bien ici, quand il raconte une histoire de place à prendre ou ne pas prendre dans un repas de noces, il ne nous donne pas une leçon de savoir-vivre. Quand Jésus raconte une parabole, il parle du royaume de Dieu, de ce monde nouveau attendu par Israël depuis des siècles et que Jésus, lui, vient annoncer pour tous les hommes. Nous nous souvenons que pour évoquer le royaume, ce n'est pas la première fois que Jésus utilise une parabole ou des questions de festin de noces, d'invités à ce festin. Et cela n'est pas surprenant. Un repas de mariage est une réalité de joie partagée. Il suppose une relation forte entre ceux qui invitent et ceux qui profitent de son invitation. Et rien de mieux pour suggérer la vie que le Seigneur vient offrir à l'humanité que d'entendre le bon repas qu'un maître de maison offre à ses invités. Les paraboles du festin ouvrent mille pistes à notre intelligence, à notre imagination, pour que l'auditoire de Jésus puisse mieux saisir la portée et les exigences de la bonne nouvelle qu'il est venu être pour le monde. Alors aujourd'hui, quelle est la piste qui s'ouvre pour nous? Revenons au texte. Il parle d'un repas de noces où chacun a une place bien précise. Ce n'est pas un self-service ou un buffet campagnard. Et cela révèle l'intention individualisée que le maître du repas accorde à ses invités. Cela peut nous réjouir personnellement si nous en concluons que Dieu connaît vraiment chacun de nous et qu'il sait quelle place lui attribuer dans son royaume. Mais alors vient une question, quels sont les critères de Dieu? Comment attribue-t-il les places? Et c'est là bien sûr que la bonne nouvelle de Christ se montre dans son audace et dans sa rigueur. Visiblement, si nous revenons au banquet, il y a des préséances à respecter que le maître a souverainement établies, mais en évoquant l'invitation de Jean qui n'ont clairement pas leur place dans les banquets de la société juive, des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, le Seigneur laisse deviner la nouveauté scandaleuse de ces préséances. Les privilèges ne sont plus pertinents dans le monde nouveau qu'il est venu inaugurer. Ou plutôt, ces privilèges sont à revisiter profondément. Parce que si nous écoutons bien, Jésus dit: continuez à inviter les gens importants, à leur donner les meilleures places, à favoriser les personnes qui ont les plus hautes relations. Mais s'il s'agit d'honorer ceux qui ont les plus hautes relations, il faut que vous sachiez que les préférés de Dieu lui-même, ses amis les plus chers, ceux à qui il veut qu'on accorde les plus grands égards, sont les hommes et les femmes qui, sur le plan social ou humain, suscitent habituellement le mépris ou l'indifférence. Oh, ces préférences de Dieu, le choix de Dieu, nous les connaissons bien. Les Écritures ne cessent pas de nous les rappeler vigoureusement, à temps et à contre-temps. Mais aujourd'hui, avec cette parabole en direct, je veux dire avec cette parabole sur un repas raconté justement à des gens qui sont précisément à table, nous ne pouvons pas échapper, nous aussi, à entendre Jésus parler du royaume, non pas comme une réalité lointaine, vaguement nuageuse, une belle promesse pour plus tard, pour l'au-delà, mais du royaume comme une réalité qui est déjà en marche, une réalité qui se manifeste déjà dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas seulement au paradis que je verrai les meilleures places accordées aux pauvres, aux estropiés, aux boiteux, aux aveugles, et on peut continuer la liste, aux moches, aux sales, aux incultes, aux casse-pieds, ceux que j'évite le plus possible. Ce n'est pas seulement au paradis qu'ils seront les préférés de Dieu, c'est ici et maintenant. Et si c'est vrai, il faut que cela se voie. Et pour que cela se voie, cela dépend de moi. Qu'est-ce qui, dans mes choix, dans mes invitations, manifeste que j'ai bien compris que le royaume de Dieu est déjà en marche? Qu'est-ce qui, dans mes choix, mes invitations, manifeste que je sais quelles sont les personnes les plus importantes de la terre, les plus dignes d'égard, les plus précieuses à fréquenter? Mais nous sentons bien, un tel renversement des valeurs du monde ne se décrète pas à grands coups de raisonnement ou de volontarisme. C'est une trop grande bousculade de nos intelligences et de nos préjugés. Nous ne pouvons que la demander humblement, les uns pour les autres, au Seigneur ce matin. Qu'il nous aide chaque jour davantage à rejoindre et à aimer, pas seulement en parole, en belles pensées chrétiennes, mais en actes bien concrets, ceux et celles qu'il a choisis pour ses préférés, à cause de leur faiblesse ou de leur misère, ceux et celles à qui il veut offrir par nous la plus belle place. Oui, demandons-le, que l'Esprit Saint bouleverse nos évidences humaines, que la sagesse de Dieu nous initie au monde nouveau, que le Christ instaure dès maintenant, à notre table et dans notre vie.